life to me.
Salut tout le monde, bienvenue chez GG Comics, l'émission de débat dédiée aux comics et uniquement sur les comics. Pour ce 92e numéro, nous sommes avec Cab de la librairie, le comptoir de la BD Versailles.
Bonsoir.
Nous sommes avec Thomas de Comics Have the Power.
Salut.
Et nous sommes avec moi-même Black Mirror de Sanctuary.fr. Après ce premier ratage d'enregistrement, nous revoilà.
Ouais. Après 6 mois où on nous a pas vus et un ratage d'enregistrement, on est là.
Bon, on vous remet en contexte pour ceux qui nous ont un peu oublié. Donc, on a eu un petit hiatus de 2 mois et demi. Et en plus, pour ce renouveau d'épisode, je me suis foiré sur l'enregistrement. Donc, on a perdu 10 minutes qu'on recommence actuellement. Donc, pour vous remettre un peu en contexte, nous avons enregistré le dernier épisode, donc il y a 2 mois et demi, le 14 octobre. Et s'il y a eu un hiatus de 2 mois et demi, c'est parce que ma femme a accouché littéralement 5 heures après, enfin, le début d'accouchement, 5 heures après le début du dernier épisode. Donc, on a eu un beau hiatus.
La gestion X-Men, ça.
Exactement.
C'est tout après, fait,
un
c'est
gros
tout descendu.
Épisode de 3 heures, mon fils a dit, ah non, faut que je sorte, j'en peux plus, quoi.
C'est ça, indigestion, hop, descend.
Et c'est pas fini, puisque 1 mois après, c'est Marty qui est devenu papa d'une petite fille. Donc bon, là, on est assez fatigué, mais bon, là, moi, je peux commencer à reprendre. Marty, je pense que...
Je vous confirme, on est fatigué, hein, on a subi, hein. Avec Thomas, là, on a subi.
Oh, je vous en mettais plus!
Tous les deux, là, la vache, on a subi des trucs de Blacky et Marty, là, ça a été horrible. Vraiment.
C'est pas vrai, moi, je commençais à picoler tellement ça me manquait, les podcasts.
Ah mais c'est bien, en plus Thomas il a envoyé des coups de feu en disant ce serait bien qu'on reprenne et tout. Moi j'étais oh, putain, pas tout de suite là, laissez-moi dormir. Mais bon ouais, c'était un peu dur, moi j'étais très pris pour dire ça, j'ai commencé à vraiment relire depuis 3 semaines, donc bon, nous revoilà, les GG Comics reviennent, on va revenir sur un rythme un peu plus normal, même si je vais avoir un gros voyage à un moment, ça n'entraînera qu'un petit décalage de 1 à 2 semaines. Mais bon, nous revoici. On vous a laissé sur un énorme podcast de Fall of Krakoa.
Voilà, vous l'avez pas encore fini. Il faut aller l'encaisser, il faut aller l'analyser,
le
digérer, le
disséquer. C'est parfait, finalement. Et donc, on voulait revenir dessus.
Une dernière fois.
Une petite dernière fois.
C'est quand même le quatrième.
Ouais, mais vraiment une dernière fois, là. On rate plus l'enregistrement là, c'est bon, mais vraiment la dernière fois, et surtout on voulait revenir un peu sur les séries annexes, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, parce qu'après 3 heures, il nous restait...
Enfin, tu dis, moi j'ai proposé une émission spéciale Mister Sinistre, et t'as pas approuvé, donc...
C'est vrai, dès qu'il y a Mister Sin, tu vois, mon cerveau il bug, et là tu vois, j'ai envie de te mettre des coups de poing comme ça sur l'écran, pas... Enfin, bon, j'emmerde Dylan. Et donc... Donc bon, pour vous remettre un peu en contexte, donc on avait fait tout un podcast, on était revenu sur en long, en large et en travers sur tout le run principal hein, de Fall of Krakoa, principalement guidé par Killian et ses conneries avec Sinister. Mais là maintenant, on revient un peu sur les séries annexes. Et en plus, on a un peu de chance parce que on a eu Jonathan Hickman qui est un peu revenu sur sa déception de pas finir les X-Men. Donc on va un peu en discuter, ce qui va nous amener sur certains thèmes. Et puis on va un peu parler de faire un petit bilan entre guillemets et se poser des questions si Krakoa ça manque pas après 1 an de hiatus au Krakoa avec ce qui se passe sur X-Men. On va se lancer tout de suite. Thomas, de quoi veux-tu parler?
Ah, je voulais parler, c'est un peu ma marotte sur la période Krakoa, de toutes les séries Excalibur. Donc il y a eu la série principale d'Excalibur, après il y a eu Excalibur en effet, et après il y a eu Captain Britain, Betsy Braddock. Déjà un peu l'accumulation de séries montre que c'est pas forcément la série qui a été la plus populaire et qui a le mieux marché, mais moi j'ai vraiment un attachement profond pour cette série, à la fois parce que j'ai trouvé que la dimension magique de l'outre-monde, la dimension un peu de réflexion sur l'Angleterre, sur le nationalisme montant en Angleterre était intéressant. Et surtout, j'ai trouvé que la scénariste Tini Howard avait vraiment réussi à se centrer sur un nombre réduit de personnages, essentiellement Captain Britain et toute la famille Braddock, Ensuite, il y avait Malicia et Gambit, mais surtout Gambit, puisque Malicia est partie après dans les X-Men. Et puis, après, il y a eu ponctuellement d'autres personnes. Je me souviens, par exemple, de l'agent anglais qui était avec eux dans Excalibur, qui était sympa aussi. Et je trouve qu'il y a vraiment eu un approfondissement des personnages. Et j'ai bien aimé suivre leurs aventures. Betsy Braddock qui vit maintenant avec Rachel, dans la maison de famille avec son frère. Je trouvais que c'était très touchant. Et par exemple, je trouve que un des symboles, c'est Rictor, que je suis moi depuis les débuts. Et que j'ai toujours, au début, j'avais trouvé qu'il avait souvent été un peu mis de côté. Et après, j'ai relu le X-Factor de Peter David. Et là, je me suis dit, bah ouais, ça y est, il a eu un moment où il était vraiment important. Et ensuite, il est un peu tombé dans l'oubli. Et je trouve qu'elle en fait vraiment, Teen Wolf en fait vraiment quelqu'un de très attachant. Il devient l'héritier d'Apocalypse, son pouvoir devient plus important. Donc c'était vraiment intéressant de voir comment elle prenait le temps de développer les personnages et de créer un monde parallèle à Krakoa.
Le mec, il y a un seul point sur lequel je suis en désaccord avec toi. C'est que tu dis que c'est une série qui a pas trop marché. Et si tu regardes bien, c'est une des rares séries annexes qui a le même auteur du début jusqu'à la fin. Et qui a une vraie histoire avec une vraie évolution. Je veux dire, elles sont pas
Une
nombreuses.
vraie fin.
Et une vraie fin. Tu vas avoir X-Force, Wolverine et Excalibur.
Bah non,
Les autres.
Wolverine, il y a eu un gros hiatus, hein.
Oui,
Wolverine, il
Wolverine, il y a eu
revient dans la
J'ai
deuxième
rien, il y a
partie, quoi.
tous. Mais, bon, t'as quoi? T'as X-Force?
Ouais,
Et qui va
X-Force.
tourner sur, avec le même scénariste? Et il y en a pas beaucoup, des séries qui ont duré avec le même scénariste du début d'Eric Mann jusqu'au bout, avec la même personne pour, du coup, faire avancer les personnages comme cela. Hein. Je suis d'accord avec toi, c'est une très très bonne série, Excalibur.
Moi, ce que j'aimais bien,
Et
c'est
il y a eu des
vraiment.
gros changements de perso, en plus.
Moi, j'aimais beaucoup le design de Betty avant que
Merci.
commence Krakoa. Oui, Betty. J'adore le design. J'avais demandé plein de commissions avec ce personnage et tout. Donc, je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé le début. Mais il y a eu un certain event, le fameux Ice of World là. Oh là, ça. Et du coup, à cause de ça, j'ai décroché complet.
Ah, pourtant, il passe des tonnes de trucs. Enfin,
Ouais,
t'as
non, mais
des
c'est juste que ce truc m'a fait décrocher complètement de la série. Et du coup, j'ai pas continué, quoi.
Après. Parce que tu vois,
Ah,
enfin, on va spoiler un peu, mais
allez-y.
t'as quand même Betsy qui va devenir lesbienne et qui va se marier avec Rachel.
Ouais. Et qui vit en commun avec son frère et Meghan. Et il y a toute une histoire d'héritage familial et tout ça.
Bah, dès le début, entre la choix de le choix de où Betsy elle choisit l'épée plutôt que le médaillon parce que bah elle c'est l'épée maintenant parce que toute la partie qu'elle fait avec Quanon et rien que ça joue vachement. On va retrouver tous les personnages d'Excalibur, tu vas retrouver Roma, tu vas retrouver vraiment tout l'univers de qu'il y avait eu sous Claremont. C'est vraiment une super série et
Et ça peut
puis
se lire, pour moi,
complètement
ça peut se lire
indépendamment.
indépendamment tout le reste.
Ouais, bah ils
Il
sont
n'y
dans
a plus
l'univers de la
d'épisode
magie.
1,
C'est le
mais
seul truc qui est pas exploité par Hickman ou très peu. Et donc, du coup, vraiment, ils gèrent leur truc, quoi. Très bonne série.
Ce qui était très cool aussi, c'est que il me semble que Marcus Tau est quasiment tout le long sur le run.
Il est jusqu'à Captain Bri enfin, Betsy Braddock, Captain
Jusqu'à
Britain. Après,
la
c'est
dernière
quelqu'un
saison.
d'autre,
D'accord, ok.
je sais plus, un
Peut-être.
style un peu plus simpliste, mais qui ressemble en même temps, donc ça jure pas. Ouais, mais il est, enfin, je sais pas, il a une trentaine d'épisodes ou quoi, enfin, je dirais, ouais, pas loin de
Ouais,
ça.
Marcus Tau, il fait un
Et,
énorme run, quoi. C'est cool, quoi. C'est vraiment
ouais,
cool.
moi je trouve.
Ah ben,
Ouais.
c'était une des séries les plus stables, hein, en termes d'équipe créative. Enfin, je veux dire, ça a été costaud, hein. Une
Ok.
très bonne série, pour le coup, on est d'accord.
Bah, je sais plus si Panini l'a publié en Deluxe ou quoi, je crois pas, je l'ai pas vu passer.
Pas tout, pas tout.
Si.
Ils en ont publié une partie que jusqu'à X-Word, je crois. Mais il n'y a
Ouais,
pas tout.
d'accord, ils ont. Non, mais je veux dire, sur la deuxième partie, il me semble pas qu'ils l'aient publié, quoi.
En TPB, non.
Non. Mais il me semble que la deuxième partie est plus courte parce qu'en fait, je pense quand même qu'elle vendait pas terrible, donc ils ont relancé avec Betsy Braddock, enfin, je sais pas, il y a quoi, il y a 6 épisodes, je dirais. Tu vois, pour conclure, pour permettre à Teen Wolf de conclure ce qu'elle
Finir
avait fait.
quoi. Ouais.
Après, on a vu très peu de séries. Après Inferno, il y a eu pas eu de mini-séries. Peut-être le X-Force, peut-être le Wolverine, mais à part ça, t'as pas eu de. Les mini-séries annexes n'ont pas été publiées en TPB. Encore, pour le moment.
Ok. Très bien. Voilà. Bah, dommage que Panini l'ait pas republié parce que du coup, enfin, pas complètement republié parce que du coup, c'est un peu compliqué. Ça veut dire se taper.
Il faut choper les kiosques.
Tous les kiosques, enfin, les kiosques, les fameux soft covers. Et souffrir parce que trouver dans les cas, est-ce qu'ils sont dans chacun ou c'est sur un sur deux?
Dans les périodes. Je vais dire parce que c'est un sur deux. Parce que je les ai gardés tous.
Un sur deux sur, pas pour tous, pas, après Inferno, c'est pas un sur deux. C'est un peu après.
Non.
C'est à partir de Sins of Sinister que c'est un sur deux.
D'accord. Okay. Ouais, et ça, ah, franchement, vraiment. c'est vraiment un gros problème. Je peux pas publier non plus. Qu'est-ce que vous en savez? Très bien. En plus, c'est un super perso, je trouve, Betsy. Donc, pour le coup, je sais pas s'ils l'ont réutilisé aujourd'hui. Je sais pas ce qu'ils font avec, mais bon.
Rien. Si, elle est dans X-Force.
D'accord. Ok.
J'ai pas Quanon qui est
dans X-Force. Non. Elle est dans je sais plus quoi. Mais non.
Betsy. Quanon. Ok.
Ouais. Quanon, elle est dans une autre équipe. Elle est dans les X-Men. De Matt Gay de
ouais c'est surprenant
mais en fait ce qui est marrant c'est que X-Force c'est Marcus Tau aussi qui dessine.
Okay.
C'est Marcus Tau qui dessine.
Ah ouais. Il a peut-être demandé.
Et par contre ils en font et parce qu'en fait il y a Betsy et Rachel ensemble sauf qu'en fait ça fait deux elle a pas pour l'instant ce que j'ai eu deux épisodes elle apparaît pas vraiment en tant que Captain Britain elle réapparaît plutôt comme
Psylocke.
Comme Psylocke quoi.
Ah ouais
une c'est un... Non, là-dessus, ouais, s'il y a un truc qui est pas...
Ouais, donc c'est vraiment un retour en arrière, quoi. Sachant qu'il y a toujours Quanon.
Ah,
Oui.
Oui. Donc ça fait double emploi.
Ça fait bizarre.
Ah, mais... Elle est censée toujours être Captain Britain. Elle a une partie de...
Elle est pas censée avoir
Elle apparaît au début avec une épée et avec le costume Captain Britain. Et en fait, comme X-Force, ils ont tous un uniforme commun.
Elle change.
Là, voilà, tu la vois pas vraiment apparaître en tant que voilà,
mais Britain, etc. Quand tu connais le personnage de Psylocke, enfin de surtout de Betsy, la vraie pas Quanon, puisque maintenant on a séparé les deux. Avant, c'était quand elle était Betsy Quanon, c'était jouable, tu vois qu'elle aille dans X-Force. Autant au jour d'aujourd'hui, au vu du personnage, c'est un peu antinomique, je dirais. Mais bon, ça c'est, on en revient, on pourra en reparler à la fin, ça.
Ok, oui, on en parlera à la fin. Très bien. Bah écoute, je pense que peut-être qu'un jour je la continuerai. Un jour. Très important ça.
Mon enfant sera plus à la crèche quand tu reprendras.
Mais je pense que je vais me faire un petit run Malicia parce que j'ai envie de relire un peu ce personnage. J'aime bien moi Malicia. Ceux que je lirai pas, ça va être je l'orne là, mais.
Ouais, mais le problème, c'est que Malicia, elle est pas dans tout Excalibur, hein. Elle part très vite. Après, va chez les X-Men. Après, elle tourne.
Donc, ça, c'est bon, c'est pas un souci. Mais je dirais, j'irai ce que veut parler encore Thomas.
Ouais, je voulais parler d'un truc encore plus rapide, qui, je le crois, est en 5 épisodes. C'est la mini-série Gambit et Malicia. Ou Malicia et Gambit, ou je sais plus comment il s'appelle. Que j'ai bien aimé aussi. Parce que étrangement, je trouve que toutes les mini-séries sur Gambit et Malicia qui ont été faites, il y a une série de Kelly Thompson, je sais plus qui d'autre il y avait eu, mais il y a eu 3 mini-séries, je crois, où le couple apparaît, et je trouve que ça fonctionne très bien. Il y a vraiment une alchimie entre les deux. Les scénaristes qu'ils ont choisis arrivent vraiment à c'est rare en fait d'avoir un couple de super-héros, super-héroïnes qui marchent. Les couples durent assez peu et eux bon bah il y a eu plein d'épisodes compliqués mais je trouve que quand ils sont ensemble ça marche bien et là encore ça c'était un truc assez fun sans prise de tête mais très bien fait on parlait d'édition tu vois moi j'en ferai un 100% alors les 100% marchent pas commercialement mais j'en ferai un petit 100% très sympa et ça vaudrait le coup. Alors je sais plus exactement comment ça se passe l'aventure, je pourrais plus vous dire exactement. Mais je m'étais dit ouais ça marche encore. Et c'est une des rares séries de cette période-là que j'avais appréciée.
Je me rappelle plus ce qui se passe dans cette période parce qu'effectivement il y en a plein des Gambit et Malicia. Il y avait un truc qui était en 2019 là que je vois, mais je sais qu'il y en avait un autre et je j'arrive pas à le retrouver. C'est con.
Il y a eu Mister and Mrs. Six.
Ah,
il y
ça,
a
c'est
eu.
C'est peut-être Mister and Mrs. Six que t'avais lu, non?
J'ai lu les trois. J'ai lu un avec une couverture grise. Où est-ce qu'il est? Je suis en train de le chercher en bibliothèque, mais je sais pas où il est. C'était le premier, je crois, où qui parlait justement des. Où il cherchait à résoudre le problème des différentes personnalités de Malicia et tout ça. Mister and Mrs. Six, c'était plus c'est un truc très fun où ils partaient dans l'espace, tout ça,
ouais,
sans réel sens, mais voilà, très
Mister
sympa.
Mrs. Six, ouais, c'est ça.
Ouais. Et de celui de Malicia, là, le dernier, je sais plus. Alors, je suis en train d'essayer de chercher où ça se passait. Mais ouais, ça m'avait bien plu aussi.
Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Malicia, pour le coup. Je trouve que ils l'ont un peu caché, même si je trouve que dans X-Men, c'était vraiment un des meilleurs persos.
Pour moi, c'est un bon support cast, mais c'est pas...
Ils ont essayé plusieurs fois de la rendre leader, quoi.
Oui, mais ils l'ont cassé
pas.
À chaque fois.
Ouais,
ils l'ont cassé
pas.
Les rares fois où ça aurait pu marcher. Moi, j'étais très très fan de l'équipe qu'elle avait fait où elle avait eu où justement tu vois les enfants de la voûte pour la première fois où elle a une équipe avec Mystique, avec Rocket et Iceberg.
Ah oui,
et
elle est vieille cette série en plus. C'était décidé par l'espagnol là.
Bacalo.
Par Bacalo, c'est un Américain.
Non, mais alors il a été derrière. C'est la période où elle a
la capuche, ouais, où elle revient à son look d'origine. Ouais.
C'est commencé par Bacalo et après c'est un espagnol là qui est sur Superman maintenant. Je ne sais plus comment il s'appelle.
Mora.
Non.
De Mora.
Non, c'est pas un espagnol de Mora.
Je sais, mais il est sur Superman.
Oui, non.
Sandoval.
Ou Sandoval, Rafa.
Ouais, Rafa.
Et ouais, mais moi j'avais bien aimé cette période, puis derrière nul quoi.
Oui, bah
là, de ce que j'ai lu, elle est quand même présente dans la meilleure série qui est après Krakoa. Mais on en parle, c'est petit teasing pour la fin.
Ok. Après, ça m'étonne pas, c'est une meilleure personne. Cab, de quoi voulais-tu parler? Je pense que tu as quelques petits morceaux aussi.
Oui, j'ai quelques petits morceaux. Je terminerai par un spécifiquement parce que pour moi, c'est un morceau qui est un peu oublié, qui est hyper important. Je vais d'abord parler de Dents de Sabre en petite mini-série parce que donc à un moment au tout début en fait Dents de Sabre s'amuse à tuer des humains parce que c'est Dents de Sabre et que c'est un con et du coup le conseil secret qui est pas si secret décide de créer une prison ce qui n'était pas prévu et du coup enterre Krakoa en fait l'enterre et du coup le mec vit dans son esprit. Et en fait, dans la série Dents de Sabre, tu vas apprendre ce qui arrive à Dents de Sabre, en fait, pendant qu'il est dans les entrailles de Krakoa. Tu vas apprendre qu'il y a d'autres personnes qui sont, en fait, dans les entrailles de Krakoa. Certaines illégitimement et d'autres, tu apprendras qu'en fait, pas du tout. Ce sont des espions pour justement espionner et empêcher un réveil potentiel. Et surtout, tu vas avoir un Dents de Sabre qui va faire tout un travail sur lui-même. Tu vas avoir un gros travail où en fait il va se mettre à rêver, à avoir des conversations avec des versions de lui-même qui sont très différentes. Il va devenir le roi des enfers. Il va un petit peu comme l'épisode de X-Men où tu sais t'as Forge qui crée le dôme. Les mecs sortent et en fait rêvent qu'ils ont conquis la Terre, qu'ils sont après les Asgard. T'as le même truc en fait. Le mec va rêver en fait de tout ça et après se rendre compte que c'est un rêve et du coup à partir de là va commencer à avoir toute une discussion sur lui-même. Il va commencer à développer des pouvoirs qui sont pas trop les siens. Et après il va s'évader et avec les gens qui vont sortir dans une série qui s'appellera Les Exilés que je n'ai pas lu et qui avait l'air déjà un peu moins bien puisque la fin de Dents de Sabre est pas tout à fait aussi bien que ça aurait pu l'être mais tout le début est vraiment bien puisque on va avoir c'est très violent au début puisqu'on a ce côté Dents de Sabre qui rêve de d'éliminer tout le monde dont Wolverine et après on va très
ce qui était bien c'est moi j'avais peur dans la saison de Dents de Sabre qu'il adoucisse tu vois.
Et
en face à un anti-héros.
Et en fait, après, tu vas très vite dans le psychologique. et dans l'horreur psychologique, en fait, parce que Dansap va essayer, les mecs qui sont avec lui, Dansap va arriver à les contacter psychiquement, puisque lui, il est dans Krakoa depuis longtemps, et en fait, il, bah, dans une île où tout est connecté, t'es forcément connecté. Et donc, du coup, il va essayer de les amener à sa vision, et pour ça, il va le faire soit violemment, avec des trucs très violents, soit vraiment, et c'est là où tu vois que le mec est une ordure finie, psychologiquement. Et du coup, t'as un vrai truc sur le sujet. Je trouve que pour le coup, ça c'était très bien fait. C'est un peu passé sous radar. Ça a donné une autre mini après, mais ça m'intéressait moins puisque t'avais moins ce côté thriller psychologique où les mecs sont enfermés et en fait, bah tu dois gérer les agressions d'un fou quoi. Et c'est vrai qu'ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont pas adouci. Après, c'est très rare que Dansap soit adouci. Même quand il avait une mini-série dans les années 90, il avait été loin d'être un mec sympa. Ça a été vraiment un beau salaud sous les dessins de Marc Texeira. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille cette mini-série qui était incroyable. Et là, c'est à peu près pareil. Ça rappelle un petit peu, quelque part, le moment où Dansap est prisonnier de l'Institut Xavier et où il joue un peu avec les nerfs de ceux qui sont présents. Notamment Jubilé, où en fait il parle et tout, et il dit des trucs qui sont vrais, puis des trucs que t'as pas envie d'entendre qui sont vrais aussi, puis des trucs faux, et mais tout est mélangé, du coup tu sais pas trop, et tu retrouves vraiment ça, donc vraiment très sympa, moi j'ai beaucoup aimé.
Je voudrais parler 5-6 épisodes, je crois, ça.
Oui, c'est très court, hein, c'est une mini.
Et la deuxième mini, moi je l'ai lu, Exilé, c'est vrai que c'était moins bien, c'était le même scénariste, Victor Lassalle.
Ouais.
Et en fait, comme tu l'as dit, Dansap s'évade. Et le groupe de compagnons de détention part à sa poursuite. Et c'est plus, ouais, une espèce de chasse à l'homme.
Ouais, c'est ça, ça.
Ça reste sympa à suivre, mais ça a pas, en effet, la profondeur que ça pouvait avoir avant.
Alors, attendez, petite question, parce que moi, j'ai le souvenir, dans la série principale, on l'évoque, et c'est Doug qui autorise à ce qu'ils partent, c'est ça?
En fait, il
non. Enfin, Dansap s'évade.
D'accord.
C'est Doug ne l'autorise pas à partir. Par contre, les autres, en fait, tu te rends compte que ils ont été mis, pas tous, mais en tout cas certains, ont été mis dans la prison faussement pour surveiller les autres.
D'accord. Okay.
Un peu comme des gardiens de prison. Et donc, du coup, il fait évader tout le monde pour qu'ils y aillent. Mais à ne pas confondre avec X-Men Green. Où là, qui est une mini-série en 2 épisodes, où en fait, t'as des mutants, qui étaient très bien d'ailleurs, où t'as 2 mutantes qui deviennent des terroristes,
des
éco-terroristes, ouais. Et qui du coup, enfreignent la loi de Krakoa sur les humains, parce que bah, justement, elles défendent les animaux et la nature, et de manière un peu violente. Et là, elles doivent aller en prison, et Doug ne les met pas en prison.
Leur
dit, vous avez une carte libérée de prison parce que Krakoa fait partie de l'écosystème naturel et donc du coup il a besoin de gens qui le défendent, ne vous faites pas gauler, vous en aurez pas une deuxième, et en plus il leur file un objet magique. Et les gars, allez hop, et du coup il les envoie. Et ça, pour le coup, moi j'avais beaucoup aimé cette mini en 2, parce que alors c'était sur les personnages qu'on connaît pas, des personnages ultra tertiaires, mais par contre c'est très intéressant de voir cet éco-terrorisme, en fait. Surtout à notre époque où, en fait, ça serait pas si con d'en avoir. Parce qu'on est en train de détruire la planète, et que du coup, des activistes qui veulent sauver le monde et qui s'y prennent mal en faisant des actes de terrorisme sur des grosses sociétés ou sur des mecs qui veulent détruire la nature tout simplement en chassant ou en faisant d'autres trucs, c'est des choses que moi, je peux tout à fait imaginer, en fait.
DC Comics, hein.
Ouais. Et ça allait très bien avec le personnage, en fait. C'était un personnage qui pouvait
Nature Girl.
Qui avait un lien avec la nature.
Tout à fait.
Et qui était dans les New Mutants, si je me souviens bien, mais une série très très récente, qui était assez naïve et elle paraissait un peu fragile. Et là, on voyait la naissance, la naissance d'une terroriste.
En fait, elle est confrontée à la cruauté animale, et elle, en fait, elle est complètement liée aux animaux, et donc du coup, elle ressent le truc. Et en fait, elle essaie de défendre ce qu'elle ressent, tu vois. Et en fait, effectivement, au début, elle est toute naïve, toute gentille. À la fin, la meuf, c'est limite, s'il y a plus d'humains, c'est pas très grave.
Mais c'est intéressant. Donc,
mais c'est très intéressant, c'est plutôt bien fait. Alors, ça aurait pu être plus fin, hein, soyons honnêtes, c'est quand même, on parle de série X-Men, c'est quand même fait avec du sabot. Mais, dans le genre, c'était pas dégueulasse.
Moi, je trouvais que c'était intéressant parce que c'était la naissance du terroriste, donc il y avait quand même une dénonciation de sa méthode, mais en même temps, c'était, enfin, il faisait vraiment poser la question en disant, bah, est-ce qu'elle a peut-être raison quand même? Est-ce que l'humanité n'est pas arrivée à un tel degré de destruction que sa solution, qui est moralement condamnée, est peut-être la bonne? Donc c'était un assez trouble en fait.
Et le fait que deux épisodes
étaient très bien.
Et le fait que Doug la libère, ça, déjà ça t'amenait un Doug qui prenait ses propres décisions avec Krakoa, et tu voyais que il était, tu vois, on l'avait déjà vu quand il sauve Moira. Et qui l'empêche de mourir d'être tué. Tu voyais que Doug en fait était pas genre le Benny Oui Oui qui parle à Krakoa. Non, il a ses propres décisions. Il est fusionné avec l'île comme il pouvait l'être avec Warlock. Et attention, il a aussi ses propres plans. Et ça c'était très très bien. Je voudrais parler aussi de X-Force puisqu'on
juste
a pas.
Un truc quand même parce que Dylan. Oui. Il pose un peu ça et puis finalement il le détruit complètement avec la solution de Krakoa qui le fout au niveau en interne quoi.
Oh mais t'inquiète pas, il y a ça... eu pire pour Doug après. Du bien pire. Je voulais parler d'X-Force, c'est pas vraiment la meilleure série du lot, très loin, soyons honnêtes. Mais comme Excalibur, c'est une série qui a duré sur le long terme avec un très très long fil rouge, et qui est notamment la très longue descente aux enfers du fauve et la remontée de d'anciens vilains, puisque par exemple Omega Red passera de gros méchant globalement un peu comme Dan Sabre qui peut pas revenir à anti-héros, méchant, mais, ouais, sur la fin, en fait,
c'est
végétal, c'est un peu ça.
Ouais.
Omega Red, sur la fin, je suis désolé, on trouve une solution pour contrôler ses accès, il aide l'équipe, alors c'est pas le mec de ouf, quoi, mais c'est pas genre, ouh, je suis un héros, c'est pas, genre, anti-héros non plus, mais t'en es pas loin de l'anti-héros, c'est plus le méchant, quoi.
Mais moi, on m'a toujours dit que X-Force, c'est vraiment la dégringolade de Beast, quoi. Vraiment, il fait n'importe quoi. Enfin, on me dit, c'est souvent la série qui... Enfin, ce qu'on me dit, c'est la série qui mène un peu au Beast de Morrison, quoi.
Alors, c'est deux choses.
Ouais, ou Dark Beast d'Apocalypse.
Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, c'est la série qui amène au... c'est ce qui se passe après. En fait, c'est la série qui amène au Dark Beast, clairement. Et c'est relou, et parce que je vois pas l'intérêt de niquer le fauve. On a déjà fait une histoire avec le Dark Beast. Ça venait d'un univers parallèle, c'était très bien, ça permettait de le salir. Je vois pas l'intérêt de le salir. Tu comprends pas vraiment pourquoi il passe méchant. C'est très abscon. Il est là pour...
Enfin, tu comprends l'idée de que en fait sa part scientifique devient tellement... Ça, par contre, je suis d'accord.
En fait,
il y a une logique, mais je la trouve.
La logique, c'est qu'il devient méchant parce qu'il veut sauver les mutants de tout ce qui, de toutes les menaces extérieures. Sauf que d'une, ça marche absolument pas, et qu'il veut le faire par tous les moyens. Mais c'est absolument pas raccord avec le personnage. Ça ne fonctionne pas vraiment. Et en fait, t'as juste un Dark Beast au fur et à mesure. Dans la série actuelle, en fait, il y a un truc, il y a un petit crossover, et là, récemment, aux États-Unis, en fait, le mec est redevenu blanc, ce qui amène, du coup, au Dark Beast de Morrison.
D'accord,
avant, c'était le Dark Beast bleu,
oui.
Et là, c'est le Dark Beast Morrison. Et en plus, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est que tu sois obligé de lire Wolverine à un moment donné. Parce que sinon tu peux pas tout suivre, t'es obligé, c'est important puisque le fauve va essayer de cloner Wolverine pour en faire une armée de X-Force en fait à son truc. C'est tout.
C'était con. C'était complètement.
Ah, il est vraiment à la con quoi.
Et du coup le fauve va arriver dans la série Wolverine, va tuer Wolverine, va le mettre comme un clébard et pour empêcher le vrai Wolverine, il va garder les faux. Et du coup, il va se faire trucider mais en fait, il se sauve parce qu'il lui aussi a une armée de clones et pour sauver la face et ramener un fauve un peu original parce que tout le monde gueule un peu, on sort un clone qui n'a pas été endommagé, qui n'a pas les sauvegardes de Krakoa.
Qui date même de la période Avengers, je crois.
Non.
Quasiment.
Non, avec Simon Williams, non. Ça...
Ouais, je croyais, mais il date vraiment de ils ont pris une sauvegarde qui date d'il y a très longtemps.
Ouais, qui date d'il y a très longtemps. Et donc, du coup, t'as pas la deuxième mutation, t'es encore sur le fauve de la période des années 90. Tu retrouves, c'est le fauve que t'as dans la série X-Men. Ouais. Et je suis là, je fais, mais sérieusement?
Ah, le rétropédalage de fou, quoi.
Le rétropédalage, le fait de faire une sauvegarde avant la seconde mutation, t'es là, tu fais, mais attends, tu reviens 25 ans en arrière. Et en plus, le truc est juste pas, enfin, c'est amené les clones, donc oui, c'est dans l'histoire et c'est amené, mais ça marche pas quand même, quoi. C'est juste pas crédible, c'est nul.
Ouais, puis surtout, le fauve méchant, il est... Ouais, puis le fauve méchant, on a l'impression d'avoir un fataliste des années 70-80. Vraiment un truc bêta où il vit dans une base qui est un squelette géant qui est sous l'eau. Enfin, c'est bêta.
Non, mais tu vois les c'est, t'as l'impression d'être sur un méchant James Bond, tu vois, des années 80, ça, Roger Moore. Et en plus, c'est censé être un des grands méchants de la période Krakoa. Et sauf qu'en fait, tout le monde s'en bat les couilles. Il y a que dans X-Force où on en parle. Vite fait, de temps en temps, tu vois Emma. Mais sinon, on s'en bat le steak.
Bah, bon, dans la série principale, on parle jamais de l'histoire.
Non. Alors que X-Force le combat comme si c'était le gros vilain qui allait tout tuer. Ils sont trois gus. Putain. On parle même pas de Sage. Et son alcoolisme qui sort de tu sais pas d'où. Tu fais, bon, bah, ok, escolo, ok. Bon,
ouais, qui se résout en trois épisodes.
Il se recou... Et à un moment, elle fait, bon, allez, j'en ai marre de m'apitoyer sur moi-même, c'est bon, j'arrête de boire. Ok. Okay. Putain, je savais pas que c'était si facile, mais ok.
C'est une de botale, quoi, c'est...
ouais, parce que je crois que lors d'une mission, elle est responsable de
la mort de
quelqu'un blessé, ouais. Tout ça, voilà. Et là, elle dit, moi, j'ai fait une connerie, j'arrête.
Ouais. Et là, tu fais, putain. Alors que normalement, c'est le truc qui t'entraîne encore plus. Ça marche pas. Je crois que le seul aspect positif... c'est qu'à un moment donné, c'est même pas très bien traité puisque c'est un peu après laissé pour compte. C'est la partie Rasputin où tu suis Piotr qui c'est la partie où puisque pendant toute la période Krakoa en fait il est sous Mikhaï, il est pas lui-même et Colossus et tu le vois, c'est là où ça commence à être travaillé en fait dans X-Force. Sauf que c'est jamais résolu, c'est mis de très loin alors que c'était un des trucs les plus intéressants du truc.
Pendant 14 mois ou 15 mois, on n'en parle plus. Enfin, moi, j'ai détesté ça parce que ça, Colossus qui devient une grosse brute, je trouve que c'est quand même idiot parce que il est déjà puissant. Donc, ce qui est intéressant avec Colossus, c'est que c'est une âme d'artiste dans un corps super musclé. C'est ça qui est intéressant.
Là, il est contrôlé. Je trouve que ça fonctionne encore.
Oh non.
Pour moi, si.
Et en effet, t'as raison. Pendant, je sais pas, je dis 12 mois, mais c'est peut-être 15 mois. On n'en parle plus du tout. Et puis, brusquement, on a l'impression que le scénariste se réveille en disant, au fait, j'ai ça à terminer. Je termine ça en 3 épisodes ou je sais plus quoi. Et hop. Hop, il est libéré. Il s'en veut. Il dit, oh, mince, j'ai fait des grosses bêtises. À cause de moi, Krakoa est en partie effondré parce qu'il a permis d'ouvrir des portes.
Enfin, c'est un trait. C'était déjà niqué, hein, de toute façon. Tu le vois, tu fais.
Colossus n'a servi que à ça, hein. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est le seul truc. À un moment, Doc Storm amène Colossus dans le conseil des cachets là, et il fait juste une mauvaise décision et après il disparaît. Hein.
Alors, c'est même pas une mauvaise décision, hein. C'est la décision de Miracle. C'est même pas la sienne, hein.
Tout
lui
à fait,
décide pas.
Tout à fait.
Bah, il approuve et il se débrouille pour que Diablo soit pas présent. Donc il se débrouille pour que la majorité soit autour de lui. Mais bon.
Ouais, bon.
Non, mais il sert qu'à ça. Moi, c'est ça le problème. Ouais, c'est que
rien. Ouais. Par contre, et je voudrais terminer sur, puisqu'on a décidé d'aller vite, je voudrais terminer sur une bonne série et une série importante, qui est la série Iron Man avec Emma Frost, puisque c'est...
Ah, bah, je me posais la question, je te vois.
Oui, vas-y, je t'en prie, pose ta question.
Non, je me demandais si c'était utile parce qu'en fait, j'ai lu toutes les séries X-Men.
Oui.
Et brusquement, je vois des Sentinel Stark apparaître. Je suis, c'est quoi ça?
Oui, et tu t'es pas dit que t'avais Fei Long qui apparaissait dans les X-Men et que tout d'un coup il disparaissait et que tu sais pas ce qui se passait?
C'est vrai.
Bah si.
Eh bah c'est si, dans si. Iron Man.
Bah ouais.
En fait, bah, moi je l'ai compris via un gars là qu'il y avait une histoire entre les deux.
La deuxième fin, en fait, une des grosses retombées et de la fin de la chute d'Orkis se trouve dans Iron Man, puisque à la fin des X-Men, Orkis est devenu le nouveau Shield. Mais effectivement, on montre que les mecs ont tué des gars, etc., des humains. Xavier arrive à retourner le complot, mais il y a toute une partie qui est gérée par Iron Man, parce que à ce moment-là, devenant le Shield et Iron Man ayant été le patron du Shield, les armures tombent sous la coupe de Fei Long, qui du coup en fait des sentinelles à Iron Man. Et c'est avec le concours d'Emma Frost que Iron Man va arriver à faire tomber Fei Long, qui est son concurrent à ce moment-là. Il y a une histoire d'amour, un mariage qui sera fait. Et la série a tellement plu qu'il y a une nouvelle série qui a été sortie lors du crossover actuel X-Men qui s'appelle.
Mais tout ça part du truc assez un peu bêta, c'est que ça en fait c'est le même scénariste, c'est Gary Duggan.
C'est Gary Duggan
qui était le successeur un peu de Hickman sur X-Men et qui écrivait aussi Iron Man. Donc ils l'ont intégré un peu dans l'univers des mutants, alors qu'en fait Iron Man n'a quasiment jamais fait partie de ce monde-là en fait. Donc au début je me suis dit, voilà, c'est quoi ce truc?
Ouais, mais en fait comme Fei Long c'est la partie ingénieur scientifique, c'est lui qui ont fait ça quoi. Et du coup Emma Frost comme à ce moment-là elle est obligée de se cacher et dans un des Inferno tu la vois elle dit je te déteste Tony Stark, en fait elle va aller chez lui. Et il y a une série là qui est donc du coup sortie au mois d'octobre de l'année dernière, puisqu'on est en 2026, qui s'appelle Iron and Frost et qui reprend justement le partenariat dans l'univers alternatif qu'il y a à ce moment-là.
C'est pas là où à un moment il file une armure à Emma Frost ou un truc comme ça?
C'est dans la série Iron Man où il file une armure et par contre Iron Man a une armure avec le métal mutant. Tout l'enjeu d'Iron Man, en fait, c'est qu'il y a le métal mutant qui est extrait par d'Arako, et en fait, ce métal mutant étant contrôlé, Fei Long le veut, et en fait, Emma Frost, qui en a le contrôle, va en donner une partie à Iron Man qui fera une armure qu'il va perdre au début de la série qui vient de commencer là. Parce que tu peux pas avoir un métal qui soit plus fort que le vibranium ou l'adamantium. Je veux dire, il commence à y avoir beaucoup de métaux qui sont soi-disant le métal le plus balèze du monde. Donc voilà, mais en tout cas, la série fonctionne vraiment bien, le duo marche très bien, parce que t'as au début une relation de mépris, mais t'es obligé de t'entraider. Parce que Fei Long attaque Stark et donc il a plus grand chose. Emma a plus grand chose et elle doit se cacher, ce qu'elle déteste faire.
D'ailleurs, et elle est sous couverture, elle travaille comme son assistante.
Elle est sous couverture, ouais, elle travaille son assistante et après elle revient en tant qu'Emma Frost. Et à ce moment-là, t'es une espèce d'histoire d'amour, en même temps respect qui commence à se faire. Et à la fin, tu te rends compte qu'il y a eu du sentiment, voire même que derrière l'entre-deux cases,
ils ont signé des contrats.
Tony aurait signé quelques contrats et pas sur un bureau. Kinou.
Mais c'est bien parce que ça, c'est la logique des personnages, tu vois. Iron Man est connu comme un tombeur et Emma Frost aussi. Donc, ça marchait bien, je trouvais.
Non, je suis désolé. Dans l'univers de tout l'univers Marvel, tout le monde couche avec tout le monde.
C'est pas faux.
Cyclope, qui est censé être le mec le plus coincé du monde, tu peux compter son nombre de conquêtes et le nombre de meufs qui s'est coltiné. C'est costaud. Wolverine s'est tapé tornade un paquet de fois et encore récemment dans la nouvelle série. Ah oui. Non.
Thomas, il est outré, mais...
Tout de suite, ça ne vient pas, mais je suis sûr qu'il y en a que... Ah bah, Rocket, il n'a pas couché avec ton Xan Mon.
Oh, ok. Ok.
Voilà. La Cheyenne Mirage, pareil, très pure. Ran, elle a juste fait avec un animal, donc ça va.
Ah non, Ran, elle a couché avec d'autres.
Ah, bah là, ça, je sais pas. Il faut que je vérifie ma biographie.
Je te confirme que Ran, elle a fait avec d'autres.
Ah. Bon, on va passer ce petit
au moment où Ran est enceinte, Ran n'est plus chaste, dirais-je.
Thomas, tu voulais parler aussi d'une autre série?
Ouais, si on a le temps. Ouais, je voulais parler des Lions, mais ça, c'était au tout début d'Hickman. Et c'est une des bonnes séries, une mini-série aussi, parce que c'était en 5 épisodes. C'était autour de vraiment de, en fait c'était intéressant parce qu'en fait Krakoa était censé intégrer l'ensemble des mutants, mauvais et bons mutants n'existaient pas, et là on suivait un groupe d'irrécupérables, de gens vraiment atroces. Il y avait Long Couteau, je me souviens, il y avait Empath, et je sais, après je sais plus les autres, mais aussi il y avait Nani et puis le faiseur d'orphelins, et en fait c'était est-ce que ces gens sont récupérables, est-ce qu'on doit s'en débarrasser. Donc on les envoyait dans une mission un peu, et si au premier abord on pouvait avoir l'impression que c'est un truc assez sinistre et tout ça, en fait c'était traité avec humour, et ça fonctionnait bien, je trouvais, hein. Il y avait un ton un peu sarcastique, cynique, et j'avais vraiment bien aimé. Alors, je sais pas, est-ce que c'est quoi cet épisode? Ouais, c'est ça, ouais.
Avec Gwen Onit ou là, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et vraiment, il y a eu vraiment une bonne période.
Mais ça, c'est ça. Ah non, je vois qu'il y a eu 18 numéros de ça quand même. Ah ouais, quand même. Ok.
Ouais, mais je crois qu'il y a eu une deuxième série après qui était un peu moins bien dans mes souvenirs. Mais ouais. Mais après, enfin, on faudrait peut-être en parler après, mais après j'ai du mal à citer. Il y a tellement eu de mini-séries dans l'après Inferno que là, par contre, j'ai du mal à en citer d'autres parce que j'ai trouvé que la plupart c'était une calamité, quoi. La série Cable, tout ce qui se passe pour Cable après Inferno, c'est une catastrophe, quoi.
Ah ouais, mais là tu m'as rappelé. Alors en plus j'ai lu, bon, je vais vous parler juste après, mais c'est vrai qu'il apparaît à un moment, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il est là, lui. C'est vraiment
les deux Câbles, les deux, oui, Câbles, il y a le jeune et le vieux, ouais. Et la dernière mini-série, c'est Scott Lobdell qui s'en occupe, parce que, ouais. Et moi je pensais qu'ils allaient résoudre un peu ce problème d'avoir un ado et tout ça,
ouais.
Bah non, il garde les deux, il fait du jeune Câble un espèce de sidekick du plus grand. Ils affrontent un truc scientifique. Oh, c'est complètement abruti.
Tu parles de quoi?
De Câble.
La dernière mini-série Câble.
Ah, où t'es les deux ensemble? Ouais. Oh là là.
Ah là là là.
Je suis bien content. Alors que
Scott Lobdell, il a mal vieilli. Hein.
Ouais. Alors que c'est dommage parce que sur le papier, je trouvais ça très intéressant. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un des grands ratés même chez Hickman. C'est la famille Summers.
Ouais,
à ce moment-là.
Mais pour moi, il le traite parallèle. Et Summers dans.
Non, ça n'intéresse pas. Ouais. Ça n'intéresse pas.
Alors, c'est con parce que justement, il fait tout un épisode où, c'est en vrai. Fait, les mecs sont, se font leur propre baraque,
oui.
Sur la lune, avec
ouais.
L'amant, le ouais. Fils de base, le clone qui vient du futur alternatif, Rachel, les deux ouais. Frangins dont l'un qui est complètement pété, et en fait, avec Jean Grey. Et en fait, il te met toute la famille, toutes les itérations de toutes les terres, de tous les machins, et oh bah vas-y, laisse tomber, j'en fous rien.
Ça me fait penser d'un autre sacrifié de la période, c'est Havok, parce que je sais plus le nom de la dernière série avec Madeline Prior, où il devient un zombie, mais c'est...
Havok, c'est plus un sacrifié à ce niveau-là.
C'est pas dans Ion, ça? Je crois que c'est dans Ion, ça, non?
Non.
C'est comme ça que ça s'appelait, la mini-série avec Madeline Prior?
C'est pas Dark X-Men? Non.
C'est Dark X-Men.
Ah, c'est Dark X-Men. T'as raison, c'est Dark X-Men. Oh là là.
Alors là, le mec, c'est Havok est toujours amoureux de Madeline, alors que le gars, il est avec Polaris beaucoup plus longtemps.
Il quitte Polaris pour Madeline.
Oui. Et genre, attends, tu fais pas revivre Madeline. Mais depuis quand c'est ton premier grand amour? Jamais depuis quoi? Les années 80? Jamais Havok a dit oulala, je vais me refaire Madeline. T'étais avec Polaris avant, t'étais avec Polaris après. Un des mecs qui cote le moins, c'est bien lui. Il a toujours été plus ou moins avec Polaris, un peu avec Ran.
Dans mes souvenirs, il refusait.
Oui.
Peut-être qu'il y a une réécriture.
Oui.
Non, Ran, non. Je ne veux pas.
Et là, il en devient un zombie. Tu sens qu'il n'est pas. Alors que, ouais. Avoue que c'est quand même le mec a été leader des. Enfin, il a été leader de X Factor pendant des années. Il s'est affranchi de son frère. Et là, on en refait un mec qui est dans l'ombre de son frère, qui est complètement bouffi dès qu'il est à côté de Cyclope. Enfin, je veux dire, c'est plus un retour en arrière à ce niveau-là. Enfin, c'est une réécriture complète du personnage. Et à la fin, le mec finit zombie.
Ouais. Mais en plus, parce que j'ai suivi une nouvelle mini-série, il est dans le X-Factor, le nouveau qui est apparu là, qui a été un échec aux États-Unis.
C'est comme ça.
Et en fait, parce qu'en fait, tu découvres que dans une mini-série publiée uniquement en ligne, il est redevenu normal. J'ai l'impression qu'il est redevenu. Ouais.
Il est redevenu normal. Est redevenu normal.
Ouais. Qu'il est redevenu avec Polaris.
Oui.
Tu dis mais.
Qui le trahit du coup. Non, parce que ils sont pas séparés 36 milliards de fois. Qui du coup le trahit en disant ouais, nous on veut pas retourner dans X-Factor, tu pues du cul. Et puis finalement il va sur tu sais, ils avaient déjà fait un X-Factor qui était contrôlé par une grosse société. Donc là c'est le même pitch et avec un côté extatique mais qui marche pas du tout. Et après du coup, comme ça marche pas, si Ava qui fait, allez, on se casse X Factor, on redevient indépendant et il retourne avec Lorna. T'as-tu fumé?
Ah, effectivement, ça donne pas envie.
Et on parle plus jamais de Madeline. Et t'es là, tu fumes.
C'est Russell qui s'appelle, je crois.
Je sais pas, c'était nul.
Si, c'est Russell, celui, un scénariste qui est apprécié, je crois, qui est dans le super, qui a fait quoi? Qui a fait Superman Space Age, là, c'est lui, je crois. Mark Russell.
Ah, avec Michael Red, j'ai pas lu. Je suis pas un fan de Michael Red, ne me tapez pas.
Moi non plus. On fait un check Schwarzy, là. Hop, comme ça. Michael Red,
Je déteste, non, parce que j'ai bien aimé Six Force Extatique, je trouve que ça collait bien à la série. Mais, Superman, non. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on pourrait parler de
moi, parce que je suis le Thomas du podcast, hein, parce que pour le coup, je n'ai pu lire qu'une seule série pour ce podcast. Excusez-moi, vous pouvez me lapider avec plein de caillasses. Moi, j'ai lu qu'une série, en plus c'est une mini-série, donc j'ai pas eu énormément de taf. Avec X-Men Forever, qui est une mini en 4. On avait parlé en fait dans le précédent podcast où vous m'avez parlé d'événements qui se passent dans les X-Men Forever. Et donc je me suis dit, eh ben il faut que je lise. Et en fait, donc j'ai lu ces 4 numéros. Et effectivement, moi où je pensais que ça se concentrait essentiellement sur le Phoenix, j'ai découvert qu'au long des 4 numéros, eh ben c'est littéralement une série complémentaire de l'arc final, hein, qui était Rise and Fall of the House of X, je sais plus trop quoi. Honnêtement, j'ai eu une de ces sensations de me dire, en fait, cette fin là, alors j'ai quand même compris ce qui se passait en lisant le Rise and Fall, mais je sentais bien qu'il y avait plein de trucs qui se passaient à côté et que j'avais vraiment la sensation que les architectes ils maîtrisaient plus rien. Il y avait tellement de trucs à aborder. Ils ont été obligés d'en placer dans les séries complémentaires et tout, etc. Donc, honnêtement, X-Men Forever, c'est pas trop mal. Il faut vraiment suivre avec la série principale, mais ça permet d'aborder la problématique de Diablo avec ses parents. Ça permet d'aborder Hope, que ça aborde des trucs sur Hope. Ça nous explique plus ou moins en fait comment Phoenix revient, parce que dans la série principale on comprend pas trop.
C'était dans X-Men Forever où ils sont dans la chambre blanche et tout.
Ouais, Hope qui chasse le Phoenix,
qui se sacrifie du coup, ce qui permet de liquider Hope et de lui donner enfin un poids, parce que
ça. Donc c'est dans cette série là, mais en plus ça t'aborde le monde blanc, ça t'apporte aussi, enfin là on revoit apparaître tous les sinistres et tout, etc. Au tout début, alors au début je me dis mais attendez, ça pourquoi, qu'est-ce que ça fout dans cette série là, ça devrait être dans la principale, qu'on comprenne mieux.
Et là où t'as les enfants qui apparaissent à la toute fin, où en fait ils te disent que, par contre la fin est vraiment bien, où ils te disent nous désolé, on a passé le truc de toujours se battre des humains et tout ça. Nous, on en a plus rien à branler. Au fait, on se casse. allez, salut.
Alors, non.
Je trouve ça très bien.
Alors, ils disent pas ça.
Non, ça, c'est dans la série principale.
Ça, c'est dans l'épisode 35 où ils réapparaissent et ils expliquent.
Ils réapparaissent, ok.
Par contre, tu comprends dans cette série-là, dans X-Men Forever, qui vont reprendre l'île et qui vont faire ça un peu différemment. Donc et sans avoir lu cette série, moi je comprenais pas trop. Enfin j'ai compris en parce que j'ai l'habitude des comics quoi. Mais je savais pas d'où ça venait, qui reprenait tout, etc. Et en fait c'est dans X-Men Forever. Et il passe plein de trucs dans X-Men Forever. À un moment il récupère une arme, tu comprends que c'est Légion, etc. Il t'explique, bah, si tu veux lire ça, faut que tu lises Dead X-Men, etc. et tout.
Non,
et...
non, mais le fais pas, le fais pas.
Ah non, je fais pas dire que je le fais.
Mais il passe ce truc, quoi.
Mais vraiment, j'ai vraiment eu cette sensation d'architecte qui ne maîtrisait plus rien, quoi, en disant, bah, il faut qu'on, on a mis trop de trucs, on a fait trop de séries, on a abordé trop de personnages. Si on s'en tire à la série principale, on va essayer de faire le truc maximum, mais il y a des trucs qui vont débarquer de nulle part.
Il faut voir que X-Men Forever, c'est quand même une tentative de récupérer le finish raté, parce que la dernière partie, donc Rise and Fall of the X-Men, c'est que la toute dernière partie, à la base, il devait pas y avoir. Normalement, si je sais pas si c'est vraiment ça, mais de ce que tu comprends quand tu lis le truc, avant Rise and Fall, ça devait se terminer là. Et comme c'est très confusant et que tu comprends pas tout ce qui se passe, ils ont rajouté Rise and Fall pour expliquer, quoi.
Enfin, et c'est pour ça que X-Men Forever. C'est tout ce qui se passe avec Cyclope, etc.
Mais c'est tout ce qui se passe sur la fin que t'as avant. Puisque avant, c'est la fin. Et,
Bah non. Rise and Fall,
tu parles du dernier épisode.
Tu parles d'X-Men 35. Ah oui, non, mais d'accord, ouais. Ok. Oui.
Ouais.
Oui, ils ont été obligés de faire un giga crossover pour tout expliquer.
Ouais,
ils ont été obligés.
De... Puis pour recréer des méchants, pour laisser une porte ouverte un peu artificielle à Krakoa. Mais moi, je trouve que justement, que soit X-Men Forever, que soit Dead X-Men, parce qu'en fait, moi, j'ai tout lu dans les softcovers. Ouais. Et en fait, Alors non, mais attends. Alors, je vais expliquer pourquoi je suis idiot. En fait, j'ai lu tout dans ces revues. Je viens de les revendre et j'ai juste acheté le deluxe avec les séries pour avoir la fin. Parce qu'en fait, je trouve que ça rajoute. Ouais. Alors là, c'est quand même con, hein, je sais. Mais bon, j'ai des libraires. Et donc, en fait, je trouve que tout ça, ça rajoute du gras. Et en fait, quand je les lisais, pas mensuellement parce que j'avais beaucoup de retard, mais quand je les lisais jour après jour, en fait, je trouve que le récit principal se diluait tellement dans tous ces trucs. En plus, Panini était en retard pour finir Wolverine, donc il faisait Wolverine, mais qui avait déjà, 6 mois de retard par rapport aux événements actuels. Donc, en fait, tout ça, ça faisait que j'arrivais pas du tout à m'intéresser à la fin, parce que un épisode sur deux, je tombais sur un truc que je trouvais sans intérêt ou abscon. Et donc, je me suis dit, je vais prendre le Deluxe, comme ça, je vais tout relire. Je veux la fin parce que je veux garder la fin de tout ce que j'ai eu depuis 5 ans, mais je veux pas tout le reste parce que tout le reste est catastrophique.
Alors pour le coup, X-Men Forever c'est pas catastrophique, hein. Vraiment pour le coup.
Non, il y a des trucs bien.
Il y a des trucs sympas, il y a des bonnes idées. Ça remet en plus, on voit la mère de Hope et tout, donc c'est plutôt pas mal l'idée.
Et ça te permet de finir la mère droiture.
Tout à fait.
Que t'avais été, c'est parce que c'est là où tu vas finir l'arc sur la dernière sinistre que tu n'avais pas eu avant.
La mère droiture, elle se finit dans la série principale pour le coup, mais là tu comprends tout ce qui se passe en fait, c'est surtout ça. Donc bon, vraiment bonne série complémentaire, mais moi ça me fait chier de lire une série complémentaire pour comprendre le truc principal, quoi. Vraiment.
Ouais, c'est pas logique.
C'est pas genre je t'apporte quelques petites explications. Et je t'apporte beaucoup d'explications.
Ouais, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de trucs. Donc bon. C'est un peu triste.
Mais moi, je trouvais justement que ça explicitait tout. En fait, ça, tu sentais que cette série avait été créée juste pour t'expliquer.
Ouais.
Elle n'avait pas un intérêt pour elle-même. Elle était là juste pour, expliciter tout ce qu'on.
Tu comprends pas comment Jean Grey revient en Phoenix?
C'est ça. Ben, moi, c'est mon problème.
Est-ce que vraiment c'est important?
Moi qui avais lu que la trame principale. Vraiment, il y a des moments où je me disais, mais c'est un peu what the fuck, là, je comprenais pas. Vraiment, il y avait plein de trucs où je comprenais pas. Il fallait que j'essaye de comprendre.
Ça te permet de sacrifier Hope pour de bon. de lier au port de bon avec le Phénix encore plus.
Mmh. Ouais, ça... je regrette, hein, parce que moi, c'est un de mes personnages que j'adore, mais bon.
Ah bah, hop, c'est fini, là, de toute façon.
Enfin, pour... jusqu'à ce que...
Oui, mais comme c'est, j'ai l'impression que c'est un personnage que personne savait quoi trop en faire, parce qu'elle a disparu pendant un long moment avant de revenir. Où Hickman lui a trouvé enfin un but. Globalement, au moins, hop, c'est terminé. Câble, on a réglé le problème, il y en a plus.
Dire que c'est Gillen qui lui a donné un très gros rôle, parce que à la base, elle était pas dans le conseil, c'était juste une machine à ressusciter. Et il en a fait quelque chose. Au moins, on peut le
reconnaître. Après, Gillen, mais Gillen était déjà là à la création de Hope. Il était sur les X-Men à ce moment-là.
Hope. Ah ouais, sur la suite, mais.
Ah, c'est Brubaker qui Brubaker, amène. Hein, oui, mais Gillen, Gillen, il est juste derrière.
Mais moi, je suis d'accord avec Gillen. Gillen, elle en fait. Ouais, mais elle est en fait le dernier rempart dans le Conseil secret. Et je trouve qu'elle était intéressante à ce moment-là.
Ah, mais après, il en fait un truc de merde dans Sin of Sinister, et puis voilà, après, c'est catastrophique.
Ah oui, ah oui.
Ah bah, non, mais Sin of Sinister, il n'y a rien à sauver.
Ah ouais, non, c'est une catastrophe. J'ai lu le premier épisode, je suis, ah, c'est cool, il va rattacher différentes continuités d'Hickman.
Ouais, moi aussi.
Force à lui, parce que c'est assez compliqué. Et quand j'ai vu ce que ça devenait au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que son délire dans le temps? De colonisation par des super mutants, et après le dernier épisode j'ai vu, ah, oh bah en fait c'est qu'un rêve, je dis mais non c'est c'est là que je me suis dit mais on est vraiment dans le rêve, hein. Ouais.
C'est une réalité, ouais. De Moira, donc en fait tu fais, ah super, le en fait,
ouais, mais en gros c'est ça quoi, c'est
il va jusqu'au bout du concept que lance Hickman. Hickman dans House of X Power, dans House of X Power of X, c'est exactement ça. Je suis désolé.
Oui.
Oui, mais en bien.
Oui, mais
ah oui. Oui. La nuance est importante.
Il fait d'une promesse intéressante un truc quand t'as terminé l'histoire, tu dis mais en fait ce que j'ai lu n'a concrètement servi à rien.
Alors,
c'est un.
Non, je suis pas d'accord.
Pas servi dans le sens où ça n'a rien apporté.
Non, je suis pas d'accord.
Ça n'a rien apporté au prestige du truc.
Ah, prestige, je pense qu'on est tous d'accord.
On est tous d'accord. Par contre, ça apporte la chute.
Voilà,
sans
ça,
t'as pas la chute. Puisque, en fait, à ce moment-là, Hope, Xavier, Emma, Exodus, et il m'en manque un, je crois.
Tornade.
Non, pas Tornade.
Non, pas Tornade, justement.
Mais t'en as des diriges avec
Destiny.
Non. En fait, les autres sont tous infectés par Sinistre, et en fait, du coup, ils sont mis au banc des décisions. Ils sont consultés, mais ils peuvent plus décider parce que en fait, ils sont infectés par Sinistre.
Non, mais attendez.
Et c'est ce qui va provoquer la chute, puisque c'est ce qui permet à Colossus d'arriver.
Non, mais
attendez, ça, tu le vois dans un épisode.
Attendez, à la fin de Sinistre, on comprend qu'il y a un Sinistre supérieur. Et donc voilà, c'est ça la finalité de Sinistre. Ça veut dire qu'il y a un gros Sinistre que vous devez enculer, quoi. C'est exactement ça, le truc.
Il y a Dieu, en fait.
C'est toute la suite. C'est que ça.
Ah, c'est toute la suite.
Donc,
Oui, mais tu pourrais, faudrait que je relise tout, mais je suis pas suivi à ce point-là. Mais tu pourrais le faire en une case, en fait. Tu pourrais le faire en une case dans un X-Men. Ah si, je te jure. Tu fais en une case un Sinistre qui se projette dans le futur et qui se retrouve bloqué par ce dieu.
Tu fais une double splash. Tu fais une double splash à la rigueur où tu vois les évolutions. Tu sais, comme quand t'avais les trucs sous Bendis avec Romita Junior où tu voyais une chronologie, une timeline, etc. Tu peux faire comme ça si tu veux, mais c'est une double page, pas une case.
Oui, je suis d'accord. Trop dur. Là, franchement,
c'est simple. Toute la partie X-Men après AXE, c'est que Sinistre. C'est trop long et c'est trop chiant.
Oui. Oui, bon, attendez, on va pas revenir dessus. On a fait genre 3 heures de podcast, donc. Donc bon. Je voulais juste.
C'est Thomas qui relance.
Je voulais juste préciser que X-Men Forever. C'est une bonne série, mais ça montre qu'il y a eu quand même un gros problème sur la construction de ce finish, quoi. C'est surtout ça.
Ah bah, clairement.
Passons à la suite. Grâce à ce extraordinaire hiatus des GG Comics, on a eu un petit retour de Jonathan Hickman, donc il a été interviewé.
Tu voulais dire qu'il a écouté notre podcast, il est venu nous voir et nous a donné une interview pour nous dire qu'il était un peu triste.
Hey Blackie, I want to say something. Et en gros, il nous a
dit... D'ailleurs, la transcription est à venir sur Comics of the Power.
Tout à fait, avec une belle photo comme ça et tout. mais bon, en gros, il explique que c'est sa pire expérience à X-Men et qu'il a un énorme regret de pas avoir fait la suite de X-Men. Et du coup, j'ai envie de vous poser des questions. Est-ce que, au final, Marvel se sont pas chiés dessus et ils auraient dû lui laisser les rênes de la suite, quoi? Et moi, je pense que, mais moi, je suis un gros fan de Hickman, hein. Moi, c'est mon Jesus, hein. Donc, clairement.
Alors, on ne le verra jamais.
Mais je pense qu'il y a une problématique derrière tout ça, parce qu'il faut rappeler que sa première partie était Krakoa, et en fait, après Inferno, il voulait lancer la chute de Krakoa, et il y avait une troisième partie.
En fait, normalement, Inferno est la chute de Krakoa. Pour moi, d'une, on le saura jamais, parce que pour le coup, voilà. Après, j'ai envie de te dire, je reste un peu mitigé sur la prestation d'Hickman sur les X-Men. Je trouve que tu peux y aller, mec. Rise et Power, c'est incroyable.
Ah ça, par contre, je pense que
Rise et Power of X, c'est incroyable. Je veux dire, tu t'en prends plein la gueule, t'as du concept de ouf, t'as une promesse qui est folle. Et après, il y a quoi? C'est X-Men sont nuls.
Oh non.
Le chemin, d'accord.
C'est X-Men sont
l'épisode nuls. L'épisode à Davos est pour moi un des plus bels épisodes des X-Men.
L'épisode à Davos.
Ouais, où ils vont rencontrer les chefs d'État, et je crois que c'est à Davos. Oui. Et en fait, t'as Apocalypse, c'est Apocalypse, ouais, ou Magneto, mais je crois que c'est Apocalypse. Non, c'est Magneto.
Ça, c'est dans Power
Off. Je propose une réunion.
C'est dans X-Men.
Et je trouve cet épisode est brillant.
En deuxième,
Moi, les épisodes avec Fuyn Noto, on s'emmerde royal. Il y a plein d'épisodes d'X-Men qui sont des one-shots qui servent pas à grand chose.
C'est Dugan, ça, non?
Ouais. Phil Noto, non. Noto, c'est chez Hickman.
Ah, c'est chez Dugan aussi, en tout cas, c'est sûr.
C'est pas plutôt, comment il s'appelle le Philippin? C'est Lily Francis Yu?
Ouais, c'est Lily Francis Yu, ouais.
Non.
Ah, si, c'est sûr. Bon, bref, là n'est pas la question, mais oui, je comprends ce que je veux dire. Mais pour moi,
je trouve qu'en fait c'est les X-Men de Hickman, c'est vraiment on attend, il se passe pas grand chose.
Mais non, et c'est tout l'inverse. En fait, c'est une construction d'univers. Pour moi, c'est il construit, build up. Et moi, j'ai adoré ce passage-là, parce qu'il construit trop de trucs, il introduit trop de concepts.
Il questionne la puissance.
Oui.
Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que, en fait, c'est une réflexion sur la puissance de l'État. Il fait ça il y a 5 ans. Et quand on voit aujourd'hui la géopolitique avec Trump, avec la Chine et la Russie, c'est comme impressionnant de te dire que, le retour de l'impérialisme, eh ben c'était Krakoa, quoi. Et je suis d'accord qu'il y a tous les épisodes sont pas bons, mais moi je me souviens de l'épisode avec Mystique sur son amour pour Destinée. C'est là que je me suis dit en fait Hickman il peut être sensible et il peut faire aussi des épisodes là-dessus. Je suis d'accord. Je te rejoins sur le fait que t'attendais beaucoup et que tu trouvais que ça. Je suis d'accord avec toi que ça délayait un petit peu. Ça, je suis d'accord.
Moi, je trouve que ça délaye et c'est pas si ouf que ça, quoi. Ça a été un peu je te promets, pour le coup, ça a été un peu une déception.
Mais
par contre, tu vois, je trouve que sur ces, sur les events, donc le Excalibur, le Hellfire Gala, le Inferno, il est très bon. C'est-à-dire que.
On met sur X-Sword, hein.
Moi j'aime beaucoup X of Wars.
Moi j'aime bien. Je trouve que c'est un what the fuck, c'est un doigt d'honneur assez impressionnant.
Ouais, et je trouve que ça fonctionne bien, quoi. Il est. C'est mais après ouais c'est un peu compliqué quoi. Ouais il a eu effectivement il a eu au début. Après c'est Silva. Après ça sera eu.
Et Noto il est que avec Dugan.
Noto c'est avec Dugan.
Voilà fin.
Non non il est aussi et... avec Hickman sur Sword Out. C'est terrible.
D'accord ok.
Mais, moi ce que je voulais Thomas dire c'est que
vas-y, Thomas.
Moi ce que je trouve que ce qui a manqué c'est du point de vue éditorial. Je trouve que Hickman au début il est pas juste scénariste, il est aussi éditeur au sens à la Jim Shooter, c'est-à-dire ouais. Il contrôle ou il coordonne, ouais, il pas qu'il contrôle parce que je c'est pense que architecte. C'est ça. Voilà.
Ouais,
mais c'est un boulot d'éditeur. Il est éditeur et je trouve que ça fonctionne. Parce qu'en fait, tu as différentes séries qui chacun ont leur univers, mais avec des liens entre eux. T'as même parfois différentes thématiques autour du concept de puissance, du concept de pouvoir mutant, même de la culture mutante avec la langue. Il y a, voilà. Et t'as vraiment l'impression dans tous les premiers, que tu te projettes dans un autre univers. Moi, et je trouve que ça fonctionne. Et ce que j'ai pas apprécié, c'est justement que Marvel, en fait, lui enlève ça. C'est-à-dire qu'il n'ait pas écrit à la rigueur les séries, pourquoi pas. Mais il fallait le garder comme coordinateur.
Pour moi,
il était bon pour ça.
Moi, je me demande si ça participe pas aussi à son malheur, parce qu'il était peut-être bon, mais s'il regardait les séries, d'une, elles n'étaient pas toutes bonnes. Et en plus, il devait avoir des idées très précises, par exemple pour les épisodes, parce qu'Hickman, je sens bien que c'est le mec qui aime bien tout maîtriser. Et qu'en fait, le fait d'avoir juste à donner les guidelines, il voit des séries qui sont pas comme il a envie, qui vont pas dans les directions qu'il a envie. Et même si les mecs raccordent un peu au dernier moment, c'est pas ce que lui voulait. Il y a peut-être ça aussi qui joue, hein, tu vois, j'en sais rien.
Dans cette interview, il évoque pas ça, il dit juste
ça peut participer au stress et au fait qu'il soit frustré.
Ouais, il y a un peu de ça. Il dit qu'il a été débordé, qu'il avait trop de séries, etc.
Mais c'est pas forcément lui, c'est Marvel.
Sur Runner, c'était normal qu'il soit débordé.
Mais pour moi, il y a quand même ce qu'il en retire à l'époque, c'est que lui, après Inferno, il voulait détruire Krakoa. Oui. Marvel a dit non, Pull of the Door, on garde.
Ouais.
Mais il n'y avait pas un juste milieu, quoi. Enfin, je veux dire.
En fait, moi j'aurais été Marvel. En fait, je serais allé jusqu'au bout du truc. Et d'ailleurs, et c'est bien pour. Et par contre, et ça sert de leçon, puisque on le voit aujourd'hui à l'univers Ultimate. Hickman, il a fait son run sur l'univers Ultimate. L'univers Ultimate, c'est fini.
Oui.
Salut, on arrête.
Ouais. Voilà.
Ça s'arrête là aux États-Unis, ils sont en train de s'arrêter.
Ouais. Mais c'est ça le problème, c'est que je pense qu'il y a un manque quelque part chez Marvel de négocier, quoi. Écoute,
en fait,
on comprend ce que tu vas faire et tout, mais on voudrait te garder dessus, continue un peu et puis un peu plus tard fais ce que tu veux faire.
Après, il faut pas.
C'est surtout qu'ils lui ont dit oui au départ. Ils lui ont dit bah oui, vas-y.
Et parce qu'ils pensaient
pas faire. Ron, fais tout ce que tu veux.
Ils penseraient
et
pas ronronner.
Voilà. Ouais,
les mecs, ils étaient super fusion. Ah, ils ne ronronnaient pas, c'était sous perfusion, le machin, c'était...
Voilà, c'est ça.
Il fallait faire un électrochoc, on fait appel à lui, on pensait que ça va relancer, mais pas à ce point-là, ça relance, les critiques sont ouf, tout le monde y veut. Et après, et c'est là, je pense que c'est un truc que Hickman a perdu de vue, à ce moment-là, c'est qu'il pensait qu'il aurait les jouets et qu'il pourrait faire ce qu'il veut. Or, c'est un business, et c'est pas ses jouets. Et ça, il l'a oublié à ce moment-là.
Ouais, mais...
Clairement, on l'a eu.
Mais parce que tout le monde s'en fout des X-Men.
À ce moment-là. Au début. Mais après, il a pu rester très longtemps. Et après, il a dû partir avec, parce que les Image Boys de Ginny devenaient, le dessinateur devait être plus important. Et en gros, on lui a.
Et l'ont viré. Mais
pendant des années, il a pu faire ce qu'il voulait.
Oui, parce que les X-Men ne vendaient pas autant qu'Avengers.
Dans les années 80?
Ah non.
Dans les années 89, 90, les X-Men vendaient bien plus que d'avant.
89, 90, c'est la fin de Claremont. Dans les X-Men.
Ouais, mais.
En 91.
Entre 85 et, 80, et 80, non, il part en 91.
Ouais.
Mais entre 85.
X-Men 1 ou 2.
Ouais, c'est
je pense qu'entre 80, En gros, je pense que dès le Phoenix, les X-Men vendent plus que les Avengers.
Ah, je suis pas
c'est
sûr
pas
de
bien
ça.
Sûr.
Ah
non.
Sûr.
Soit des coups, soit des one, soit des parties un peu importantes, type le Phoenix, c'est possible, mais pas sur l'intégralité des runs. Toute la période après avec les guerres secrètes où les X-Men à ce moment-là, c'est Malicia, c'est t'as Cyclope qui est parti, etc. Moi, je suis pas bien sûr. Hein.
Ouais, non, non, je suis.
Là,
moi, je pense que c'est
vérifié.
C'est proche, mais je suis pas sûr que ça passe au-dessus. Hein.
Ouais, je pense pas. Et c'est pas le flag. Et les X-Men sont pas le flagship. Les X-Men deviennent flagship à partir de Jim Lee. Avant c'est Spider-Man et c'est les Avengers.
Faites la story, les gars.
Sylvestri, à l'époque, il est pas connu. Quand il se lance dessus, Leonardi, c'est pas des gros auteurs. T'as Bob Arras sur les Vengeurs à cette période de l'année. Bob Arras, qui est déjà éditeur, je te le rappelle.
Ah, mais justement, enfin, bref, c'est pas le sujet en fin de retarder.
Mais là, effectivement, tu voulais en discuter, Thomas, c'est vrai que on était parti sur une philosophie de étatique avec Hickman. Ouais. Donc, tu voulais parler de collectivité. Moi, je parlerais même plus de collectivité. Je parlerais de population.
Ouais, c'est ça, de communauté.
Ouais. Et effectivement, tu en disais tout à l'heure et ça m'a fait les chocs, mais c'est vrai que on est un peu sur le même type de menace au début de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on a le pouvoir. Si vous voulez qu'on vous l'offre, bah vous respectez ce qu'on veut faire et puis basta quoi. C'est un peu ce que nous fait un peu Donald quand même. Hein. On est vraiment sur ce type de philosophie quoi. Et on peut supposer que Fall of Krakoa était vraiment une déchéance d'un État quoi. Et c'est vrai qu'avec
qui s'effondre sur lui-même à partir de sa puissance et de ses failles.
Ouais,
c'est ça que ça raconte.
Alors que ce qui est devenu avec le chauve pas divin, c'est vraiment une conception de on met tout sur la tête de Xavier, quoi. Et ça.
Mais moi je me demande si est-ce que c'est les scénaristes ou est-ce que c'est les éditeurs qui ont dit ouais mais en fait alors Hickman ton idée elle est bien mais ça veut dire dans ces cas-là tous les X-Men sont co-responsables de massacres, de génocide, d'impérialisme.
Mais on sait pas ce que voulait faire X-Men. Parce que ce que voulait faire Hickman, ça se trouve, il y avait la chute de Krakoa, c'était pas ça.
Oui, c'est possible. Hein.
Il part d'une supposition. Si on a le résultat, en fait, c'est que au départ, on a quand même le sentiment que c'est une vraie réflexion sur la puissance et le fait que génétiquement. Les X-Men, enfin les mutants sont plus puissants. Et en fait, c'est Hickman. L'idée, c'est de pousser l'idée jusqu'au bout et de dire en fait, ils sont par nature plus puissants et donc ils doivent avoir leur pays et être une puissance mondiale. C'est ce que raconte le début. Et donc c'est au début. Et en fait, quand tu lis Fall of the House of Phoenix, etc. En fait, toute la responsabilité des choses est mise sur Xavier. Parce que déjà c'est lui qui est au centre de cette histoire, mais c'est aussi parce que par plusieurs dialogues, en fait, il explique qu'il a manipulé ses X-Men, qu'il a transformé le passé, et donc tu te rends compte que même Moira n'est plus si importante que, enfin n'est plus
la responsable
de tout.
Tu pars du principe
et que le coupable est Xavier.
Oui, mais ça, tu pars du principe. Non. Parce que ce qu'aurait écrit Hickman,
Non, ce qui s'est maintenant. Et moi, j'ai l'impression que je sais pas ce que. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas qu'est-ce que ça aurait été avec Hickman, mais c'est surtout que le concept de départ est trahi. C'est que la puissance collective devient une responsabilité individuelle. Donc la responsabilité collective devient une responsabilité individuelle. Et je trouve que les nouveaux scénaristes trouve une porte de sortie un peu facile pour sauver la franchise X-Men en rendant Xavier responsable de tout. Mais je sais pas ce que X-Men aurait écrit. Je sais pas ce que X-Men aurait écrit. Mais ça m'a un peu déçu, ça.
Au vu de son choix de partir sur une série spatiale, enfin de relancer le Space Hop, et pas très bien pour le coup, malheureusement, je Ah bon, Empire, c'est pas terrible hein, pour le moment.
Ah, je sais pas.
J'ai juste acheté le premier tome.
Je suis pas fan. Je pense que en fait, il aurait fait que la Terre est trop bigote et trop petite pour les X-Men.
Ouais.
Déjà l'exploration de Mars. Et quand tu vois qu'il les emmène sur Mars, pour moi en fait, il fait la Terre, c'est relou. Vous êtes chiant, vous voulez. En fait, il y aurait eu effectivement, je pense, Orkis qui aurait voulu essayer de les tuer. Et en fait, les mecs, ils auraient pas sombré, ils se seraient exilés. Il y aurait eu un exode. Et je pense que la prochaine étape était l'exode dans l'espace,
qui, pour moi,
aurait été incroyable.
Ouais.
Si c'était ça,
tu serais resté dans la communauté.
Oui, oui.
Non. Tu serais resté dans l'idée d'une communauté entière.
Il serait devenu conquérant.
Communauté conquérante.
Ouais.
Ça qui veut dire.
Communauté conquérante.
Ouais, mais t'aurais pu faire un.
Mais de communauté, attends. Pour moi, communauté, c'est pas négatif, hein. C'est pas communautariste. Pour moi, communauté, c'est un groupe ayant des points communs.
Ok, moi, je le voyais comme un truc négatif.
Non,
c'est pour ça. Moi, j'étais là en mode. Plutôt communautaire. Non, moi, tu vois, j'aurais même vu l'île à la peuple juif, en fait, qui essaie de trouver ce que t'as déjà avec Krakoa. Oui. Et en fait, je pense que tu l'as dit. Bah, nous, exactement. Krakoa, c'est comme le moment où on est dans le désert, on a trouvé, et t'as Moïse qui se pointe avec les trucs, on s'installe, on pense que c'est là, et l'autre, il fait hop, hop, hop. C'est pas là, c'est plus loin. Et du coup, il part dans l'espace pour faire.
Il y a un peu une analogie avec Israël, hein, pour Krakoa, hein, pour le coup.
Complètement.
Carrément.
Donc, moi, j'admets que je pense que c'est ce qu'il aurait fait quand on voit ce qu'il fait sur Mars.
Et justement, si tu parlais de, t'as toute une réflexion sur l'utopie en fait, sur parce que c'est ça en fait, c'est
bien sûr
le projet de Xavier et le projet de Magneto et d'Apocalypse, donc trois utopies en fait, finissent par fusionner pour le projet de Krakoa, et on se rend compte progressivement avec au fil de la série X-Men ou d'autres séries que en fait cette utopie devient un cauchemar, et Moira incarne ce cauchemar de l'utopie.
Alors en fait, pour moi, c'est l'inverse.
Moi, je trouvais ça intéressant.
Je suis pas sûr qu'il y ait un cauchemar tant que ça sous la période d'Hickman.
Bah, Moira, pour moi, incarne.
Moira apparaît très peu. Devient vraiment vilaine qu'Inferno au moment où, en fait, son plan est révélé. Avant, Moira, elle est juste cachée et le vert est plutôt féminin puisque c'est Moira d'une part puisqu'elle est cachée. Et on voit qu'elle est méchante.
Elle fait partie des fondatrices. Hein,
Et c'est Mystique qui veut absolument récupérer Destinée.
C'est ça.
Le problème vient globalement de là et du seul mensonge que fait Xavier. À ce moment-là, parce qu'après, effectivement, ça a été développé, mais à ce moment-là, quand il crée l'utopie, le seul mensonge qu'il fait, c'est Mystique.
Oui.
Il dit, il n'y a pas de problème, mais pas tout de suite. Et c'est le seul mensonge qu'il a. Parce que tout le reste, il ment pas dessus. Oui. Personne ne parle de Moira. Personne ne lui demande.
C'est un élément fondateur de Krakoa parce qu'il cache, qu'il y a une menace future et que les mutants sont censés aussi empêcher.
C'est une menace future, même lui, il le sait pas.
Ah si! Parce qu'il y a tout l'aspect technologique organique.
Non, Moira lui dit qu'il est possible qu'il arrive. Là, pour le coup, Xavier est un vieux de la vieille. Il a vu assez de réalités alternatives, assez de futurs et de prédictions pour savoir que rien n'est écrit. À un moment donné, faut pas déconner non plus.
Oui,
là, pour le coup, c'est pas Krakoa. Genre c'est gravé dans le marbre.
Oui, mais Krakoa est la réponse à ce qu'a vu Moira, justement.
Krakoa est une réponse à toutes les réalités qu'a vu Krakoa.
Oui, tout à fait.
Qu'a vu Moira. Mais toutes ne sont pas, tous les futurs ne sont pas les mêmes. Tu la vois avec plein de futurs différents. Quand tu vois les lignées Moira, tu vois plein de futurs qui sont différents. C'est pas un truc et à chaque fois elle va un peu plus loin. Elle s'allie à un Magneto, elle s'allie à Charles, elle s'allie à un machin. Et avec ça, elle revient forte de son expérience. Elle dit, écoute, si on veut que ça marche, en tout cas, si on veut y arriver, ça va être ça. Et c'est un test, en fait.
C'est pour ça que je parlais d'utopie et de voilà. Et moi, ce qui m'embête
Et le mensonge de l'utopie fait que ça tombe. Xavier avait été direct avec Mystique en disant « Je suis désolé, nous ne voulons pas et nous ne referons jamais de précog », Mystique, elle aurait été vénère, elle aurait pas été dans les... Elle se serait barrée de l'utopie. elle aurait essayé quand même de niquer le truc, mais le verre aurait pas été dans le fruit, elle aurait pas pu prendre la place de Xavier, etc. Enfin, tu vois, s'il avait été clair et net avec elle dès le début, et Magneto aussi, c'est, ça aurait été réglé. Ça aurait été très différent.
Et ce que je trouve étrange, c'est, tu vois, le, ça m'a pas dérangé trop la fin qui est tous les sinistères, tout ça. Mais en fait, Gillen introduit toute une dimension sur Dieu, sur la réflexion, sur. En fait, il bascule de la puissance d'un État à la puissance d'un individu qui veut devenir Dieu.
Ah, tu l'as déjà chez Hickman. Power, c'est celui qui se passe dans le futur et House, c'est celui qui est à l'heure actuelle, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais. Power, c'est dans
les créatures.
Non, House of X, t'as Magneto qui va pour proposer le deal à certains chefs d'État et essaye de se retourner contre Magneto et Magneto leur dit « Vos nouveaux dieux, c'est nous ».
C'est pas X-Men 1, ça ?
Oui, c'est nous.
Oui, mais c'est du coup, nous. C'est... Oui, mais c'est nous. C'est... Tu es plus sur de la déité unique, t'es sur de la déité polythéiste. C'est... La différence est minime, en fait. C'est-à-dire que... Non, l'humain devient dieu. Et les mutants sont devenus des dieux. Dieux.
Voilà.
Oui, c'est la même chose. C'est pas le collectif qui vient Dieu. C'est chaque mutant devient Dieu. C'est comme ça que je le. Ah, si.
Pour moi, c'est Krakow. C'est nous, c'est Krakow.
Non.
Et Magneto, à l'époque, ne parle pas pour lui, il parle pour la communauté. Et Gillen transforme ça en.
Il parle pour les mutants. Il parle pour mutants, chaque
mutant. Je pense que vous êtes d'accord, mais c'est juste que, Thomas, il est.
Ah non, que entre un et des dieux, c'est pas la même chose.
Non, mais, ce que je veux dire, c'est que vous deux, vous dites que, il y a une déification du groupe, mais toi, tu dis, c'est chaque individu du groupe, et Thomas, il dit, c'est le groupe en entier. Mais, dans la finalité, c'est la même chose, les gars. Je sais pas pourquoi on
non, parce que, débat, non, parce que, bah... non, parce que pour moi, Magneto, à ce moment-là, il parle en tant que mutant, l'espèce, mais pas en tant que groupe. Pour moi, je pense qu'il parle individuellement.
Mais après, c'est, j'ai pas pour autant trouvé que la fin était catastrophique. Si on parlait de Marvel. Ouais, elle est bien mieux que l'April Inferno, ouais, je suis d'accord. Pendant sur cette fin, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai trouvé un sentiment que Marvel avait tellement épuisé le filon qu'il fallait trouver une fin et que la fin n'était pas à raccord pour moi avec le concept de départ. Était une fin différente qui
oui, mais ça c'était
presque solide quand même, mais qui n'était pas. Si ça avait été Hickman, je pense qu'elle il y aurait une logique plus forte. Elle aurait peut-être été moins bonne.
Mais il y aurait comme s'il arrive sur les X-Men comme quand il est sur l'univers Ultimate, il vient pas avec un truc en disant je vais commencer comme ça, je sais pas trop comment je vais faire après. Il vient avec un début, un milieu, une fin. Il a un plan, il sait ce qu'il va faire donc.
Exactement.
Moi, je pense que Marvel a eu tort de suivre le plan. Je pense que par contre Hickman a eu tort de penser
qu'il aurait tout le temps de tout faire. Je sais pas, hein, il a tout dans sa Avengers quand même. Donc... Il est loin pourtant. Hein. Avengers,
oui, mais
c'est très loin.
Oui, mais parce que ça permettait une relance forte de l'univers en entier.
Ah, tout à fait.
Que les X-Men n'auraient pas permis, je pense. Parce que les X-Men, ils auraient voulu les envoyer dans l'espace et après, t'avais pas les X-Men. Je pense que vraiment, ils voulaient faire un truc avec les mutants radicaux. Enfin, faire un truc radical avec les mutants, pardon. Et du coup, les envoyer dans un endroit où il aurait été dur de les faire revenir après quand ils seraient partis.
Possible. Cela dit, c'est pas ce qu'ils ont fait.
C'est mon opinion et c'est n'engage que moi. J'en sais rien. Jonathan ne m'a pas encore appelé pour m'en parler.
Pas ça la suite, matin. Mais je suis sûr qu'il t'appellera. Tu vas peut-être utiliser son idée pour ce qu'il est en train de faire en ce moment. Pour le coup. Cela dit, on a eu quand même un joli Marvel qui nous range ses jouets, et ça fait un an qu'on est sur le poste au Krakoa, et ça me donne toujours pas envie de lire les X-Men, ce qui nous amène à la question, est-ce que cette franchise, d'ailleurs, toutes les personnes que je connais me disent, les mutants c'est pas ouf, il y a peut-être Ben qui dit, des fois il y a un peu d'espoir, etc. et tout, mais globalement on me dit que c'est pas ouf, du coup, qu'est-ce qu'on fait des X-Men? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Est-ce que c'est, on est dans une phase de tempo le temps que les films arrivent? Mais est-ce qu'on peut se relever de ce qui s'est passé par rapport à Krakoa, messieurs?
Oui, parce que on l'a déjà fait, qu'on a été sur une période globalement aussi nulle, pas si longtemps que ça, juste avant Krakoa. Enfin, j'aime bien la toute période juste avant, mais toute la période Bendis, ça a été quand même très compliqué. On savait pas si on allait s'en relever. Au final, oui, c'est juste une période de vache maigre. Il y en a déjà eu sur la franchise, il y en aura d'autres. C'est vrai que là, actuellement, c'est pas fou, quoi.
On a pas d'idée, quoi.
Je le disais tout d'abord en off quand on était que tous les trois. Actuellement, le pitch est le même pour les trois séries Mère X-Men. C'est-à-dire que t'as un groupe de vétérans qui va se retrouver dans son coin à éduquer de jeunes mutants qui n'y avaient pas avant. Tu sais pas où sont passés tous les autres. Comprends pas vraiment. Il y en a plein qui manquent. Enfin, je veux dire, il y avait pas vraiment besoin d'aller créer des nouveaux jeunes mutants. On aurait pu déjà reprendre ce qui existait avant, essayer d'en faire quelque chose. L'histoire est globalement la même pour tous. Après, ça se développe un peu, sûrement, mais en tout cas, au début, c'est exactement le même pitch, c'est exactement les mêmes trucs. Chacun avec sa sensibilité, mais l'histoire est la même. Et c'est un vrai pas en arrière, et ça fait penser un petit peu à quand on demande à Claremont de revenir pour rétro-pédaler la période de Morrison, où il a été une période de vache maigre. Il a fallu attendre globalement l'arrivée de Brubaker pour que ce soit vaguement potable, quoi. Et encore, même Brubaker, ça a été compliqué. Donc là, ils ont essayé de relancer en ressortant une nouvelle version de Age of Apocalypse, qui, de ce que j'ai
que personne n'a demandé d'ailleurs.
Que personne n'avait demandé, qui n'a pas l'air folle de ce que j'ai cru comprendre. Et on verra bien comment ça se passe, mais c'est compliqué, quoi, en ce moment, les X-Men.
Moi, je reprends ce que t'as dit. J'ai lu les quatre premiers softcovers. J'irai pas plus loin à part peut-être une ou deux séries si elles sortent en deluxe. Mais ce qui m'embête, moi, c'est qu'il y a une vraie réaction. C'est qu'il y a un vrai retour en arrière. On fait pas comme si Krakoa n'avait pas existé.
Non, ça
on fait des allusions. Il y a des allusions scénaristiques. Par contre, au niveau du concept,
des personnages,
les mutants sont de nouveau une minorité opprimée. Les héros de nouveau. Décide de s'organiser par équipe qui n'ont pas vraiment grand sens. On comprend pas pourquoi tel personnage est dans telle équipe plutôt qu'une autre. Ouais. Les histoires sont extrêmement linéaires. Des fois, c'est bien fait. Moi, pour l'instant, les deux seuls récits que je voudrais peut-être lire en deluxe, c'est le X-Men de Kenny Thompson et David Marquez, que je trouve déjà très bien dessiné.
Ouais,
il est très sympathique pour l'instant. Ouais,
et je pense que c'est celui qui a l'équipe la plus organique.
Ouais, je suis d'accord.
Parce que t'as Gambit et Malicia qui gèrent et qui sont les deux héros principaux. Donc déjà, comme ils sont cousins mariés, c'est pas gênant. Tu rajoutes Wolverine qui a toujours été proche de Malicia, donc c'est pas gênant.
Exactement.
Non plus.
Et qui était tendu avec Gambit, qui a toute une histoire complexe avec Gambit.
Et t'as Tornade qui apparaît au début et qui va vite partir.
Et t'as Jubilé.
Et t'as Jubilé.
Et Jubilé.
De Wolverine. Donc du coup, ouais. Pour moi, c'est la plus organique.
Je trouve que Thompson a une, tu vois, elle a constitué son. Enfin, je sais pas si c'est elle qui a constitué l'équipe, mais en tout cas, il y a une vraie logique, comme tu le dis. On est dans des lieux aussi qui correspondent aux mutants. Ils vont en Louisiane. Il y a une partie dans l'ancien truc d'Xavier. Donc et c'est très bien dessiné, encore une fois. Donc moi j'ai bien aimé et j'ai pour l'instant j'ai bien aimé aussi Exceptional X-Men avec Kitty Pryde parce que ça se passe à Chicago. Il y a un aspect vraiment très
à la terre. Un barman, je sais pas trop quoi, c'est ça.
Bon, c'est ça.
Ouais. Ben au début j'étais comme la tête que tu fais Blacky Wham, mais vous voyez pas, mais en fait, il est hyper sceptique. Donc, j'étais exactement comme toi. Le dessin fait un peu gravure de mode. Donc, j'étais hyper sceptique. Mais les deux premiers épisodes sont très terre à terre, très, qu'est-ce qu'on fait à Chicago, mais comme tu le dis, avec des nouveaux mutants, tout ça. Mais j'ai trouvé que ça se disait. Par contre, tout le reste n'a aucun intérêt.
Wolverine est nul depuis 20 ans.
Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Phoenix se lisait. X-Force, c'est Marcus Toad, donc j'aime bien le dessin, mais tu comprends pas trop pourquoi Forge, il y a une histoire dedans, bah, ça va pas.
Qu'est-ce que vient foutre Forge dans X-Force, quoi?
Oui, je suis d'accord.
T'as la série avec Cyclope, qui, la moitié de son casting.
C'est pas du front, quoi.
Ouais. Alors, c'est vraiment le X-Men des années 90, hein.
C'est exactement ça. Il y a des cases reprises de Jimmy.
Le seul truc qui fonctionne ou qui est un peu logique dans la conception de l'équipe, c'est que Iliana ait suivi Scott, puisque c'est le cas depuis un bon paquet d'années, qu'elle est toujours avec Scott, puisque c'était déjà la période Bendis, t'avais ça. C'était son adjointe dans la période quand il était capitaine des forces dans Krakoa, donc c'est logique. Le fléau, t'es là, tu fais « Ouais, je vois pas trop pourquoi ». Le fauve, t'es là, tu fais « Ouh,
pour les quasi... » Qui retient gentil.
Est-ce que c'était vraiment utile? Quentin Quire, c'est pas logique. Quentin Quire,
il était mort à la fin de Krakoa. On lui a coupé, il avait plus que sa tête, son corps a disparu.
Ouais.
Donc, sa compagne, donc une des frères Poukous, en fait, éteignait la machine qui mettait en route la tête. C'était un peu débile, mais c'était une fin qui était plutôt belle.
Et là, il
réapparaît avec son corps, avec en jeune, ça le faisait un accent vieux. Le dessin accentue le côté vachement ado. Ouais. Donc, en effet, t'as l'impression qu'il est plus jeune, il est plus en couple.
Bah, déjà,
ça n'a aucun sens.
Déjà, t'as l'impression que Cyclope, sur certaines cases, il est devenu ado. T'es là, tu fais, wow.
Ouais, c'est vrai, t'as l'impression qu'il y a eu un rétropédale.
Et quand un Quire, en plus, il devait être dans une équipe, il devait être avec Wolverine. C'est là où il y a une dimension. T'as une synergie, il y a un truc. Ouais. Or que là, je comprends pas. Et Psylocke, pourquoi Psylocke est là? On refait la tendance des années 90 où Cyclope il regardait Psy, qui disait
et t'as vu la manière dont Stegman représente ses sabres psioniques, ouais. Il dirait un espèce de torchon entouré sur un sabre. Il y a d'autres fois Stegman est plutôt sympa, je trouve ça agréable à regarder.
Stegman c'est un très bon émule de Todd McFarlane et ça marche plutôt bien sur Venom, le Spider-Man. Sur les X-Men, ça marche beaucoup moins bien.
Il a besoin d'un truc organique, lui.
Ça marche pas super. Donc voilà, les séries sont vraiment pas folles. J'ai envie de te dire. Ouais. Mais c'est ça, là, moi, en fait.
De toute façon, c'est un bide.
J'attends le prochain run. C'est très rare que je feuillette même pas, alors que je suis les X-Men depuis les années 90, même un peu avant, et que j'ai globalement, hormis la période Bendis, sur le milieu fin, où je les ai plus, je les achetais pour les acheter, ils sont là, je les ai jamais lus. Mais sinon, je feuillette toujours, même dans les périodes les plus mauvaises, où je suis vraiment là, et je sais de quoi ça parle. Là, j'ai lu les deux, trois premiers, et en fait, je les entasse, je les lis même pas, je les feuillette même pas, je les ouvre même pas. Et bon,
je pense que c'est vraiment quand il y aura les films qu'il va essayer de faire quelque chose. Mais là, t'as l'impression que c'est mis en.
Mais les films, ça va après tout de suite, quoi.
Pour moi, c'est la faute de l'éditeur, là. Parce que quand tu regardes les noms, Jen McKay, moi, je connais assez plus ce qu'il a fait. J'ai juste lu La Chatte Noire, que j'ai bien aimé.
Après, il paraît que je vais essayer de persister sur les X-Men de Cyclope, parce que Ben dit que Jed McKay, en fait, il ça prend bien. J'ai l'impression que Jed McKay, ses runs mettent du temps à démarrer. Parce qu'il paraît que son Moon Knight était très bien, mais faut rentrer dedans. C'est Vengeurs, c'est pareil, le début, c'est pas fifou. Mais là, actuellement, ce qui sort en VF, c'est quand même plutôt pas dégueulasse. Et donc, du coup, je pense que c'est un mec qui a peut-être un peu un diesel, tu vois, il va peut-être falloir attendre. Donc, je pense que je vais m'en refaire une dizaine d'épisodes, histoire de voir un peu si ça se développe un peu plus, quoi.
Écoute, on va conclure dessus sur un message d'espoir de Cab. Parce que malheureusement,
je voulais être plus négatif que ça. C'est que pour moi, c'est l'ensemble des séries Marvel qui en ce moment sont pas bonnes.
Oui, oui.
Y a deux séries qui m'intéressent, trois. Il y a Moon Knight, on a parlé, ça m'intrigue parce que tout le monde parle, ça aide bien. Il y a le Incredible Hulk, que j'ai lu le premier tome, qui est sympa. Et il y a le Immortal Thor d'Harley Quinn. Tout le reste, ça m'intéresse pas. J'ai essayé plusieurs trucs et
Marvel est dans une très mauvaise passe créative en ce moment.
Oui, en ce moment, c'est dur. C'est dur. Très, très dur. Écoutez, bah, très bien. C'est sur ces très beaux mots d'espoir pour Marvel.
Tu veux être optimiste? Eh ben, non.
De toute façon, là, moi, je suis pessimiste, hein, sur les X-Men. Bon, écoutez, c'était un petit podcast de retour. Moi, je crois qu'on a fait 1h20, tu vois. Donc, on est pas mal dans l'objectif. On a une petite, ma petite cagade qui fait qu'on est un peu plus tard que prévu, mais bon, voilà. Bah écoutez, je vous invite à réagir, hein, on peut en discuter, hein, vous pouvez venir sur le Discord, etc., répondre, que ce soit sur Twitter, @cggcomics, ou sur Facebook, ou via mail, cggcomics@comics-sanctuary.com. Et puis, on va revenir d'ici un mois, on va décider des prochains sujets, on va s'organiser pour qu'on puisse faire des GG et revenir mensuellement. En plus, il se passe plein de petits trucs avec nos amis américains qui... plein de petits sujets, ma foi.
Ah, ça.
Donc, on va revenir très vite.
Baby.
Et, en finesse. Et puis, bah, surtout, hein, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si vous écoutez un podcast. Et n'oubliez pas, écoutez, c'est bien. Et lire des comics, c'est mieux. Et je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss.
À bientôt. Ciao.
Salut.
Life to live. Sometimes I can be very sharp. I need to satisfy my soul. I've got to feel empty hole. A change has got to come, baby. For my whole world will be done. It won't stay very long, baby. So I've got to
be. Peace.
Do it, Mary.